France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonie.
Dans La marche du cavalier, Geneviève Brisac écrit de Jean Rhys. Jean Rhys ne fut jamais prudente. Craintive, oui, terrorisée à juste titre par la vie, mais pas prudente. Elle fit cette remarque en 1960, 20 ans après la publication de Good Morning Midnight. Il n'en restait pas un seul exemplaire dans la plus obscure librairie. Et elle avait tout à fait renoncé à publier. Il fallut encore attendre presque 10 ans pour que ce roman paraisse en France sous le titre « Bonjour minuit » et encore 10 pour que son auteur soit vraiment reconnu pour son infini talent, sa musique unique, son style éblouissant. Elle avait presque 90 ans et allait bientôt mourir, fantasque, mélancolique, souriante, trop lucide sur elle et les autres, en 1979. Sur France Culture, en 1980, quelques mois après la disparition de l'auteur de Quartet, de Quai des Grands Augustins et de La Prisonnière des Sargasses, Marlène Hospice et Bruno Sourcy consacraient une nuit magnétique à Jean Rhys.
I find it almost impossible to absolutely make up sin. It has to be something I know for me to write, but I do find that when you started, very often a character will as it were, come to life, go its own way, quite apart from you. I mean, it does things you didn't mean it to do at all. I do find that.
C'est donc dans une île des Antilles à la Dominique que naquit en 1891 la romancière anglaise Jean Rhys.
You, in fact, were born in the West Indies, weren't you?
Mm.
Whereabouts?
In Dominica, Brazil.
Do you remember anything of it?
Oh, yes. I was 16 when I left.
Oui, je m'en souviens parfaitement. J'avais 16 ans quand j'ai quitté la Dominique. C'était pour aller en Angleterre, étudier. J'ai détesté l'école. Il faisait si froid, pas de chauffage. Et il fallait se précipiter autour de ces misérables petits feux. J'avais terriblement froid. Et aussitôt, j'ai décidé qu'il fallait que je quitte ce pays. Et je suis allée en France. Ma carrière d'écrivain, en fait, dans mon enfance, déjà, j'écrivais des poèmes, des petites pièces un peu stupides, des légendes. Mon père m'y encourageait beaucoup. J'avais même construit mon petit théâtre dans une pièce à la maison.
How much of Jean Rhys is there in your books, do you think? Is it very autobiographical, your writing?
Well, it is in a way. You see, that's rather strange, as a matter of fact.
Dans un certain sens, oui, toute mon œuvre est autobiographique.
And then you start to write with the idea of the truth.
C'est une drôle de chose.
Even though it might hurt.
Quand on commence à écrire, c'est toujours avec l'intention de dire la vérité, même si cela doit faire souffrir.
So you're really saying then that.
Parce qu'on espère de se débarrasser de la souffrance. Non, cela ne signifie pas qu'on ne puisse écrire qu'un seul livre. Parce que la vie ne s'arrête jamais. Au début, oui, c'est donc un peu un journal. Mais au fur et à la mesure, ça devient autre. C'est le projet du livre qui prend le dessus. Il faut trouver un début, un milieu, une fin. Et voilà ce livre qui se met à développer sa propre trame. À la fin, ce ne sont pas exactement les faits de la vie réelle, selon mon expérience en tout cas.
De nostalgie par excellence. Paysage de fragilité et d'inquiétude contre lequel la seule réponse est l'innocence. Dans mon enfance, j'étais terriblement impressionnée par la prédiction que les fautes des ancêtres exigent réparation sur 4 générations au moins. Et je n'étais que la 3e génération issue en ligne directe de propriétaires d'esclaves. Dira en substance Jean Rhys. Parfois, c'était comme si j'étais de retour là-bas et que l'Angleterre ne fut qu'un rêve. Et parfois, c'était l'Angleterre qui était la chose réelle et là-bas le rêve. Mais jamais je ne pouvais les faire aller l'un avec l'autre, dit-elle dans Voyage dans les ténèbres. Nul doute que l'arrivée de Jean Rhys en Angleterre en 1907 ait produit sur elle un effet de choc. Elle avait alors 16 ans. Se retrouver transplantée ainsi qu'elle l'était, loin de sa famille, dans un univers totalement étranger et qui lui deviendra hostile dans la mesure où, moins de 6 mois après son arrivée, elle reçut la nouvelle de la mort de son père. Exactement comme dans un mauvais rêve. Disparition soudaine du père, éclatement de la structure familiale, dérisoire querelle d'argent sur fond de déchéance sociale. Aux Antilles, il y avait au moins les fastes, le faire semblant. Et tout d'un coup et brutalement, il n'y avait plus de parade. Plus d'argent pour faire des études, plus d'argent du tout. Le pire probablement étant que quelque chose lui était alors retiré, qu'elle ne pouvait même pas exactement cerner. Car cette mort catastrophique pour elle, elle ne l'a pas vécue. Elle l'a souffert, mais elle ne l'a pas vécue. Il y a donc devant elle, par-dessus elle, un événement totalement irréel, et qui pourtant s'impose à son histoire. Alors, peut-être que là, on peut voir la source de cette espèce de destin de malheur qui pèse si évidemment sur chacune de ses héroïnes. Il y a toujours chez Jean Rhys, en effet, une sorte de détresse a priori. Un pressentiment que de toute manière, tout est joué, et naturellement contre elle. Jacques Tournier a déjà traduit un des romans de Jean Rhys, Quai des Grands Augustins. Actuellement, il est en train de traduire en français les éléments autobiographiques. Cet ouvrage a paru à Londres en décembre 1979, 6 mois après la mort de Jean Rhys. Jacques Tournier.
Oui, je crois qu'il faut peut-être expliquer déjà ce que c'est que ce livre autobiographique. En fait, c'est tout à fait sur la fin de sa vie qu'on avait demandé, que son éditeur avait proposé à Jean Rhys d'écrire son autobiographie. Et elle avait hésité longtemps, et puis finalement, elle s'y est décidée. Et elle s'est décidée à un âge assez avancé, puisqu'en fait, je crois qu'elle y a travaillé peut-être 2 ou 3 ans avant sa mort. Donc, à partir de 83 ou 84 ans, en fait. Et le livre se présente en 2 parties. La première partie est complètement achevée, c'est-à-dire qu'elle y a travaillé complètement jusqu'au bout, qu'elle y a revu la dernière virgule et le dernier point, le dernier adjectif, car elle travaillait avec une conscience extrême sur ses textes. Et la première partie est entièrement consacrée à son enfance à la Dominique. Et puis il y a une seconde partie qui, elle, n'a pas été achevée par Jean Rhys avant sa mort et qui est beaucoup plus faite de notes, de choses jetées sur le papier, de souvenirs et même de conversations avec quelqu'un qui lui posait des questions. Car en fait, à la fin de sa vie, elle avait les mains très abîmées et elle n'arrivait pas à écrire très longtemps. Elle pouvait à peine écrire 1 heure ou 2 et il y avait un de ses amis qui venait l'aider en lui posant des questions et en la faisant réagir sur ces questions.
C'est étonnant justement parce que on peut penser qu'après la prisonnière des Sargasses,
qui portait sur son enfance.
Enfin, son enfance,
oui. On est un peu étonné de voir que les éléments autobiographiques se sont acharnés en quelque sorte sur cette première période encore de sa vie, et que toute la période de sa vie qui va entre l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge de 84 ans n'est pratiquement pas traitée, n'a pratiquement
oui,
pas
si,
été...
Oui, si, quand même un peu, mais d'une façon beaucoup moins précise, beaucoup moins voulue et beaucoup moins concertée, en fait. Et je crois simplement, peut-être, c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps, parce que je pense qu'elle pensait avoir le temps de travailler complètement la seconde partie, et peut-être même la troisième, puisqu'elle a dit un jour qu'elle voulait faire 3 livres. Donc je pense que la seconde partie devait aller jusque peut-être vers la guerre de 40, c'est-à-dire au moment où elle a publié tous ses livres, et le troisième livre devait vraisemblablement couvrir cette dernière partie jusqu'à la fin de sa vie. En fait, ce qui est frappant, en effet, ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est qu'on a le sentiment qu'entre son enfance et elle, il y a quelque chose qui ne s'est pas dénoué. Il y a une espèce d'antagonisme et même de bataille entre son enfance et elle. Et cette première partie a quelque chose, dans son écriture même, d'assez fermé, d'assez obscur, refusant l'émotion, se tenant très en dehors presque du sujet lui-même, comme si la petite fille qu'elle était lui faisait d'une certaine façon un peu peur, peut-être à travers les regrets qu'elle avait de cette enfance et de ce pays, et de ses parents surtout. Car il y a certainement, entre son père et elle, et entre sa mère et elle, toute une série de batailles qui ne se sont pas livrées et qui sont restées en elle complètement, en fait.
Et ne croyez-vous pas plutôt que cette espèce d'absence, si on veut, de regard sur toute sa vie, disons quand même qu'entre 19 ans et 84 ans, ça, c'est là que s'est jouée sa vie.
Bien sûr,
est-ce que
oui.
Cette absence de regard n'est pas pour vous frappante et n'illustre pas tout ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire sa disparition sur le plan littéraire pendant 30 ans et ce refuge, cet enfermement à la fin de sa vie?
Oui, c'est possible. Il est possible que Jean Rhys se soit arrêté de vivre à 17 ans et que tout le reste ait été en plus. Moi, il y a une chose qui m'a tout à fait bouleversé dans l'autobiographie que je suis en train de traduire, c'est que à la suite de sa première histoire d'amour, quand elle avait 19 ans, elle ne dit pas d'ailleurs avec qui, elle s'est enfermée dans une chambre, elle a acheté des petits cahiers chez un libraire et elle a commencé, en buvant un peu de whisky pour s'aider la nuit, elle a commencé sur ses carnets à écrire toute son histoire et toute son aventure, en fait. Bon, et après elle a enfermé ses cahiers dans une malle. Et elle ne s'en est servie que très longtemps après, et ça a été les éléments autobiographiques qui lui ont permis d'écrire Quatuor. Et à la fin de ses carnets, il y a cette phrase qu'elle a écrite, elle écrit « Et ô Dieu, je n'ai que 20 ans, et il me reste à vivre, et à vivre, et à vivre, et à vivre. » Et on a vraiment le sentiment que cette première histoire d'amour, qui a été une histoire d'amour malheureuse, comme toutes les histoires d'amour de Jean Rhys d'ailleurs, cette première histoire d'amour l'a complètement enfermée dans cette espèce d'absence dont vous parliez justement, et que tout d'un coup, elle s'est refermée complètement, et chaque fois, elle a cru que de nouveau un départ se faisait, mais il y avait « Il me reste à vivre, et à vivre, et à vivre, et à vivre ».
Quand surviennent les ennuis, il faut serrer les rangs, dit-on. Et c'est ce que font les Blancs. Mais nous n'étions pas dans leurs rangs. Ma mère n'avait jamais plu aux dames de la Jamaïque. Parce qu'elle, jolie, jolie personne comme tout, disait Christophine. Ma mère était la seconde femme de mon père. Bien trop jeune pour lui, pensait-elle. Et qui pisait martiniquaise. Quand je lui demandais pourquoi si peu de personnes venaient nous voir, elle me répondait que la route de Spanish Town, au domaine Coulibri, où nous demeurions, était très mauvaise, et que le projet de la réparer était maintenant chose du passé. Mon père, les visiteurs, les chevaux, être en sûreté dans son lit, tout cela appartenait au passé. Un autre jour, je l'entendis parler à M. Luttrel, notre voisin et son seul ami. Ils ont bien entendu leur propre infortune. Ils en sont encore à attendre l'indemnité promise par les Anglais quant à passer la loi sur l'affranchissement. Il y en a qui attendront longtemps. Comment aurait-elle pu savoir que M. Luttrell serait le premier à se lasser d'attendre? Par une calme soirée, il tua son chien d'un coup de feu, gagna à la nage la haute mer et disparut à jamais. Aucun régisseur ne vint d'Angleterre s'occuper de sa propriété. Nelson Rest, elle s'appelait. Et des inconnus venaient à cheval de Spanish Town, en curieux, pour parler de la tragédie et cancaner. Habiter Nelson Rest? Pour rien au monde. Une demeure qui porte malheur. La maison de M. Luttrell resta vide, les volets claquant au vent. Les Noirs ne tardèrent pas à dire qu'elle était hantée. Ils ne voulaient pas s'en approcher. Et personne ne vint dans notre voisinage. Je m'habituais à une vie solitaire. Mais ma mère continua à tirer des plans sur la comète et à espérer. Peut-être qu'il lui fallait absolument espérer chaque fois qu'elle passait devant un miroir. Elle continuait à monter à cheval chaque matin, sans tenir compte du fait que les Noirs restaient à la regarder et s'attroupaient pour se moquer d'elle, surtout lorsque son costume de cheval fut devenu tout râpé. Ils remarquent les vêtements, ils s'y connaissent, question argent. Puis, un jour, de très bonne heure, je vis son cheval couché sous le frangipanier. Je m'avançai vers lui, mais il n'était pas malade. Il était mort, et ses yeux étaient noirs de mouches. Je m'enfuis en courant, et n'en parlais pas, car il me sembla que si je ne le disais à personne, peut-être que ça ne serait pas vrai. Mais un peu plus tard ce jour-là, Godfrey le découvrit. Il avait été empoisonné. « Nous voilà comme isolés sur une île déserte, » dit ma mère. « Qu'allons-nous devenir maintenant ?» Godfrey lui dit. « Je peux pas surveiller le cheval nuit et jour, moi trop vieux maintenant. Quand le bon vieux temps s'en va, laisse-le s'en va. Ça sert à rien se cramponner. Le Seigneur faire pas différence entre noir et blanc. Noir et blanc, même chose pour lui. Reposez en paix, car les justes seront pas abandonnés. » Mais elle ne pouvait pas. Elle était jeune. Comment n'aurait-elle pas cherché à ravoir toutes les choses qui avaient disparu si brusquement, sans crier gare ? « Tu es aveugle quand tu veux l'être, lui dit-elle, d'un ton féroce. Et tu es sourd quand tu veux l'être. » Le vieil hypocrite, ne cessait-elle de dire. Il savait ce qu'ils allaient faire. Le diable, lui, prince de ce monde, dit Godfrey. Mais ce monde pas duré bien longtemps pour l'homme mortel.
Mais enfin, moi, l'autobiographie que j'ai lue enfin, en anglais là, m'a intéressée, disons, plutôt négativement. C'est-à-dire que je crois que ces romans sont nettement plus intéressants. Ils sont intéressants parce que il me semble que c'est tout. Les personnages sont construits avec tous les fantasmes, toutes les peurs qui ne sont pas avouées là dans l'autobiographie.
Non, qui sont pas, qui sont peut-être encore plus secrets en fait, parce qu'en fait. Je crois que c'est vrai en ce sens que c'est d'abord et avant tout une romancière. C'est une très, très grande romancière. Et en fait, bon, ses romans sont des très, très grands romans. Et elle s'est mise entièrement dedans avec son œil de romancière. Le jour où, vers la fin de sa vie, elle se penche sur son existence elle-même et sur la réalité des faits, etc. D'abord, elle n'est pas sûre de sa mémoire. Et puis ensuite, je crois qu'elle avait peur de dire un certain nombre de choses. Finalement, elle les a camouflées sous cette espèce de trop grande lucidité, en fait. Mais ce que moi, je trouve très, très beau dans l'autobiographie, c'est toute la seconde partie et la fin de la seconde partie où tout d'un coup, plus rien n'est écrit, où ce sont des choses qui sont presque dites à voix basse, comme ça. On a le sentiment, tout d'un coup, d'une très vieille dame dans un fauteuil, comme ça, la nuit ou le soir, comme ça, toute seule, immobile, et qui se parle à elle-même et qui se pose des questions à elle-même sur ce qu'elle était quand elle était petite et quand elle était jeune, et ce qui lui a plu et ce qui lui a déplu, et ce en quoi elle croit, et ce qui l'a fait souffrir et ce qui lui a fait plaisir. Et il y a une espèce de monologue à deux voix, comme ça, d'elle-même, que je trouve par moments tout à fait admirable, enfin, et déchirant. Et...
Donc, vous, vraiment, vous n'avez pas eu le sentiment qu'au contraire, elle persistait dans le refus et dans la haine?
Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah non, elle le dit très très clairement. Alors là, je parle de ce qu'elle écrit dans son autobiographie, et qui est absolument vrai et profond, c'est qu'elle a jusqu'au bout, et c'est ça qui est très très beau, jusqu'au bout, cette très vieille dame, après tout ce qu'elle a connu et tout ce qu'elle a souffert, toute cette très vieille dame a continué à dire qu'elle espérait en quelque chose, et qu'elle croyait en quelque chose, et qu'elle croyait en l'homme, et qu'elle croyait en l'amour, et qu'elle croyait en l'humanité, des choses aussi simples, aussi grande que ça, en fait, si vous voulez, et qui était complètement en elle, absolument, jusqu'au bout. C'est ça qui fait que finalement son œuvre est belle, parce que une œuvre ne dure, je crois, enfin, profondément, c'est une conviction que j'ai maintenant, une œuvre n'existe qu'en fonction du potentiel d'amour qu'elle porte avec elle, en fait. Et l'œuvre de Jean Rhys, quand on la lit très attentivement, malgré toute l'ironie, malgré tout le déchirement des personnages, est une œuvre d'amour.
Notre jardin était grand et beau, comme celui dont il est question dans la Bible, où croissait l'arbre de vie. Mais il était devenu sauvage. Les sentiers étaient envahis par l'herbe, et une odeur de feuilles mortes se mêlait à la senteur vivante et fraîche. Sous les fougères arborescentes, aussi hautes que celles de la forêt, la lumière était verte. Les orchidées fleurissaient hors d'atteinte, où pour telle ou telle raison il ne fallait pas les toucher. L'une d'elles avait l'aspect d'un serpent. Une autre ressemblait à une pieuvre, avec ses longs et minces tentacules bruns sans feuilles, pendant d'une racine torse. Deux fois par an, cette orchidée fleurissait, et alors on ne voyait plus un pouce de tentacule. C'était une masse de blanc, de mauve, de violet foncé, admirable à voir. Son parfum était très suave et très fort. Je ne m'en approchais jamais. Le domaine Coulibri tout entier était retourné à l'état sauvage, comme le jardin était redevenu brousse. L'esclavage n'existait plus. Pourquoi qui que ce soit devrait-il travailler? Je n'en ai jamais été attristée. Je ne me souvenais pas du domaine à l'époque de sa prospérité. Ma mère avait l'habitude de se promener de long en large sur le glacis. Terrasse dallée et recouverte d'un toit qui courait tout le long de la maison et montait en pente jusqu'à un bouquet de bambous. En se tenant debout, près des bambous, elle jouissait d'une vue dégagée sur la mer. Mais tout passant pouvait la dévisager. Il la regardait effrontément, parfois riait. Longtemps après que le son de ce rire s'était éloigné, puis éteint, elle gardait les yeux fermés et les mains crispées. Un pli se formait entre ses sourcils noirs, un pli profond. On aurait dit qu'il était taillé au couteau. Je détestais ce pli. Et une fois, j'ai touché son front pour essayer de le rendre lisse. Mais elle m'a repoussé. Pas brutalement, mais calmement. Froidement, sans un mot, comme si elle avait décidé une fois pour toutes que je ne lui étais bonne à rien. Elle voulait rester assise avec Pierre, ou se promener où bon lui semblait, sans être importunée. Elle voulait la paix et la tranquillité. J'étais assez grande pour prendre soin de moi-même. « Oh, laisse-moi tranquille, disait-elle, laisse-moi tranquille. » Et une fois que je remarquais qu'elle se parlait tout haut à elle-même, j'eus un peu peur d'elle.
Était-elle sympathique ou non? Voilà le genre de question du meilleur ton qu'on relève ici et là. Et n'avait-elle pas été victime d'elle-même? Et ne se serait-elle pas acharnée à s'enferrer dans le malheur? Et ainsi de suite. Et au lieu de disparaître comme elle l'a fait pendant 30 ans, n'aurait-elle pas pu tout simplement revenir à la charge, ses manuscrits sous le bras, et se battre, et aller jusqu'au bout? Au fond, le genre de victime qui ne permet pas qu'on s'apitoie sur elle renvoie à son interlocuteur une image qui le dérange. Par exemple, l'affaire de la disparition de Jean Rhys, après 1939. Elle avait alors publié 5 romans. Avec ce que l'on sait maintenant de sa vie, il apparaît qu'elle aurait commencé à écrire à l'âge de 19 ans. Donc, 20 ans d'efforts, de labeur, dans des conditions matérielles désastreuses, sans aucun stimulant culturel d'aucune sorte. Or, aucun des 5 romans ne connaît de succès. Il n'aurait même pas fait 3000 exemplaires en tout. Tâchons de saisir ce que cet échec a pu représenter alors pour cette femme de 48 ans, dont, justement, les romans sont remplis de ses cris de détresse, de son mal-être, de sa misère matérielle quotidienne, de sa fin de bonheur, mais plus encore d'une réelle tension d'être. Or, pour elle, cet encerclement ne se rompt pas. Au contraire, la preuve lui était ainsi faite que le métier qu'elle avait effectivement exercé ne lui permettait pas de vivre. Si elle gagne de l'argent, elle devient une femme indépendante, elle accède enfin à son image d'écrivain. Sinon, la fatalité revient au triple galop, indécision de soi-même, dépossession de son être culturel, mutilation.
Pick up your books, your first books. What are they? Voyage in the Dark and the other ones.
Jean Rhys.
Yes.
Do you ever pick those up and?
Yes, I look at them. I think Voyage in the Dark is not my best book.
Oui, il m'est arrivé de me replonger dans mes livres. Voyage dans les ténèbres, c'est le meilleur de ce que j'ai écrit.
Version that was on recently. You didn't like the way they did it.
Well, they made it so very moral, didn't
they? Et l'adaptation qui en a été faite pour la télévision m'a déplu. Vous comprenez, c'est une histoire triste, mais dont je n'ai jamais voulu tirer une morale.
On
peut sentir aussi profondément dans les courtes nouvelles que dans un roman. Certains sujets nécessitent davantage que d'autres telle ou telle forme littéraire.
What about influences on your writing? Can you say that you had any, or didn't you bother with them?
I think all the influences about my real writing came when I was very much a child.
Les influences sur mon œuvre me viennent de mon enfance. Nous avions une magnifique bibliothèque et j'y avais accès sans contrôle.
Of course, what I read then had an enormous influence on me, I think. For instance, I liked astonishing people. For instance, I liked Milton.
J'aimais Milton.
I didn't understand him, but I liked him. And who else did I like? I liked Byron.
Aussi, j'aimais Byron.
You were a bit of a rebel by the sound of it, Jean.
And I liked, I didn't know Keats and Shelley then at all.
Mais je n'aimais pas tellement Shakespeare que je redoutais quand dans les examens. Heureusement, plus tard, j'ai pu le relire. J'ai des projets de nouvelles. Mais ce que je voudrais vraiment avoir le temps de faire, ce serait un livre sur les Antilles. Parce qu'il y avait déjà eu tant et tant de mensonges sur ce pays.
C'est Diana Attill qui a travaillé avec Jean Rhys à partir de 1958 sur son manuscrit « La prisonnière des Sargasses », puis sur les éléments autobiographiques. À Londres, nous lui avons demandé quel était son souvenir de Jean Rhys. Diana Attill.
L'impression très forte était de manque d'argent. Elle habitait un tout petite maison, très très peu de choses. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle avait mangé, rien dans la cuisine. Ce n'était pas froid parce qu'elle avait ce très très petite cuisine comme une boîte avec un petit radiateur. C'était possible de le faire assez chaud, mais moi, terriblement un manque de confort. Et je crois que toute la vie, elle avait un manque d'argent.
Quand on lit ces romans, on est obsédé par la question d'argent. Et en même temps, on se rend compte que l'argent n'a pas de valeur. Que aussi vite qu'on le reçoit, on le dépense à faire n'importe quoi.
Oui, je crois que ça, c'était vrai, absolument vrai. Pour Jean Rhys, l'argent, c'est quelque chose pour dépenser, pour avoir quelque chose de joli, une robe, de champagne, des fleurs. C'est pour ça.
Elle n'a pas eu beaucoup de succès avant la guerre. Le succès est venu donc très tard en Angleterre et il a commencé en France dans un grand public. Pensez-vous que Jean Rhys ait été au courant de ce succès et qu'en aurait-elle pensé de son succès en France?
En France, elle voudrait beaucoup avoir succès en France parce qu'elle aimait la France. Elle a été très, très heureuse en Paris. Souvent, elle m'a dit ça, que les journées les plus heureuses de sa vie étaient en Paris. Alors, le succès en Paris, ça serait très important pour elle. Mais elle n'est pas... Le succès n'est pas très important, généralement. Non. L'important est d'écrire le plus exactement que possible, le plus économiquement. Est-ce qu'on peut dire ça que possible? Et ce que le monde pense de ça, ce n'était pas pour elle très important.
Vous avez eu l'occasion de la voir travailler. Alors que dans ces romans, on ne voit jamais des femmes travailler ou avoir une activité sérieuse ou être préoccupées de quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous donner votre impression quand elle travaillait, quand elle écrivait?
Une concentration extraordinaire, mais vraiment, vraiment extraordinaire. Elle était comme une femme, une femme différente. Parce que Jean était charmant, était douce, mais quand elle travaille, elle était dure. Pour Jean, les petites difficultés de la vie étaient immenses. Je me rappelle qu'après un silence de je crois que c'était 6 semaines, j'ai reçu d'elle une lettre. Elle dit, hélas, je ne peux pas écrire à ce moment parce qu'il y a 6 semaines, j'ai des souris dans la cuisine. Thank you.
l'écrivain anglais Francis Widman avait lu les romans de Jean Rhys pendant la guerre. Dès après celle-ci, il s'était pris de passion pour cette œuvre oubliée et s'obstinait à la faire réimprimer. À Londres, nous lui avons demandé ce qui l'avait frappé dès le début chez Jean Rhys. Francis Widman.
Le style, la purité du style, l'honnêteté de son talent, le sujet aussi, cette vie qu'on ne décrit pas souvent, de ces chorus girls, ces actrices, ces obscures femmes dans les petits hôtels, tout cet côté de la vie est très rare de trouver ce sujet traité avec une telle honnêteté et vérité.
Que pensaient ses voisins dans son village d'elle?
Elle pensait qu'elle était une sorcière. Et dans une façon, c'était vrai. Parce qu'elle toujours, elle pouvait évoquer l'homme dont on avait besoin, dont elle avait besoin. Elle était magique. Magicienne, peut-être, oui.
Plus tard, vous avez rencontré Jean Rhys. Et vous avez aussi connu un peu de sa vie. Et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez presque étonné de voir qu'elle avait pu survivre à tout cela. Qu'est-ce qui vous donnait le plus cette impression chez elle?
L'impression que c'était étonnant,
oui.
Les livres, parce que dans les livres, c'est facile à penser que cette femme pourrait se suicider, quelques tragédies. Mais Jean était un survivant. Elle était presque, on peut presque dire, dure. Et ça, je le trouve étonnant.
Pensez-vous qu'elle ait eu le sentiment d'avoir raté sa vie?
Oui, hélas, je pense. Je pense que oui. Elle voudrait être heureusement mariée à une vie tout à fait différente. Elle ne voudrait pas être un auteur. C'est quelque chose. Elle disait, je ne suis qu'une plume. Elle voudrait être une femme aimée, heureuse, avec une vie plus pleine.
Aussi passais-je le plus clair de mon temps dans la cuisine, qui se trouvait dans un bâtiment extérieur, à quelque distance. Christophine dormait dans la petite chambre contiguë à la cuisine. Quand venait le soir, elle me chantait quelque chose, si elle était d'humeur à cela. Il ne m'était pas toujours possible de comprendre ses chansons en patois. Elle aussi venait de la Martinique. Mais elle m'a pris celle qui dit « Les petits grandissent, les petits nous quittent. Reviendront-ils ? Et celle sur les fleurs du cèdre qui ne dure qu'un jour.
Il y a une naïveté si parfaite chez Jean Rhys. Ce qui fait le bonheur de son écriture, car celle-ci parvient à une sorte de transparence diaphane. Elle réussit à frémir du même mouvement que son héroïne, ballottée entre son désir de vivre et la peine qu'elle se sent d'aller devant elle. Pour ce qui est du reste, féministes et femmes tout court, accrochez vos ceintures. D'ailleurs, persiste-t-elle, lors d'une interview accordée juste avant sa mort et reproduite par le journal Vogue en 1979. Je me rends compte qu'on voudrait me pousser dans le rôle qui m'était prédestiné, celui de victime. Ainsi, je n'aurais jamais eu du bon temps, je n'ai pas ri, ni eu des choses à moi dans mon passé, ni porté de jolis vêtements, ni été heureuse, ni connu des bonheurs sauvages et des désespoirs profonds. En bref, je n'aurais jamais été jeune. Ou si je l'ai été, j'ai tout oublié. Je n'aurais fait qu'aller de tyran en tyran, et chaque fois le dernier en date pire que le précédent. Tout ceci, naturellement, conduit tout droit au MLF. Suit alors une série d'imprécations contre le MLF. Bon, on peut alors se risquer à le dire. Il semblerait que jusqu'au bout, elle ait gardé le couvercle au-dessus de sa tête. Je crois d'ailleurs que ce qui m'a le plus frappé dans son autobiographie, c'est qu'il n'y ait pas plus de 10 lignes en tout qui soient consacrées à ses 60 années d'écriture. On eût aimé voir le chemin de son écriture, les zigzags pénibles entre toutes les calamités, prostitution, alcoolisme, désarroi, dérive, solitude, toutes ces calamités qu'elle aurait réellement vécues ou qu'elle n'aurait simplement portées en elle que comme fantasme ou angoisse. J'ai demandé à une de ses amies si, dans le fond, malgré cette vie tumultueuse, marginale, elle n'avait pas de tout temps été extrêmement conformiste. Je n'ai pas obtenu de réponse précise, sinon qu'avec Jean, on ne pouvait pas juger sans précaution, que dans les dernières années de sa vie, elle proférait à propos de tout des idées tellement réactionnaires que c'en était surréaliste. Nicole Lise Bernheim, Marie-Céline Lafontaine, Annie Mignard, à propos de Jean Rhys et autour de son roman « Quai des Grands Augustins ».
Je me suis aperçue que l'univers de Jean Rhys, contrairement à ce que je croyais, ne m'était pas tellement sympathique. C'est-à-dire que ce que je préfère, c'est en fait la prisonnière des Sargasses, sans doute à cause de la présence des Antilles, tandis que l'univers qu'elle montre à Paris me déplaît absolument. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une femme qui a dû être tellement malheureuse, un univers tellement sinistre et tout, même si c'est très bien écrit, que je n'y trouve pas mon plaisir à la lire. Je ne sais pas vous, là, mais...
Oui, moi, c'est quand j'ai lu « Quai des Grands Augustins », enfin, quand je l'ai terminé, je me suis dit, eh ben, mon vieux, toujours des cris de haine, toujours une simplification en plus dans cette haine, enfin, en particulier dans « Quai des Grands Augustins », alors que dans les autres... livre, il y a quand même un certain humour, ou de temps en temps un côté drôle ou de la légèreté. Mais dans Quai des Grands Augustins, c'est une haine qui est poussée à la bêtise, pratiquement. Enfin, comme un roman photo. Tous les hommes sont des porcs, toutes les femmes sont des jalouses. Et il n'y a que l'héroïne qui a un regard tendre, et on voit qu'elle n'est pas faite pour la vie, etc. On se dit là que la narratrice et l'auteur, c'est la même chose, qu'elle parle d'elle, on ne peut pas s'en empêcher. Et on se dit qu'elle s'est regardée longuement dans la glace en faisant des mines. Et qu'elle a trouvé qu'elle avait un regard comme ça, attendrissant et doux, et que les gens n'étaient que des salauds vis-à-vis d'elle. Mais j'ai trouvé ce livre qui est des Grands Augustins, un peu comme un exemple type de ce que pouvait être, si on est optimiste, la vie d'une femme à la grande époque de la misogynie. Et c'est une condition tout à fait, une condition psychique et mentale navrante, vraiment navrante. C'est comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, c'est pas une vie, c'est une sous-humanité, c'est un repoussoir effrayant.
C'est ces demandes constantes d'argent, cette dépendance qu'elle a vis-à-vis de l'homme, c'est quand même...
Oui.
Un froid dans le dos pour elle.
Oui. À un moment, elle dit, justement, dans Quai des Grands Augustins, elle se rebelle contre quelqu'un qui n'a pas voulu lui donner les quelques livres qu'elle demandait, et elle crie, mais moi, je peux aller Si j'en ai besoin, je peux très bien aller trouver qui je veux, je sais qui il faut aller trouver et je l'aurai. Ben ça, on est absolument sûr. Là, c'est un attachement, mais d'une férocité à la vie. On sent que jamais elle s'enverra en l'air, jamais elle se flinguera, jamais elle se balancera. C'est plutôt le genre à, je sais pas, s'il y a un naufrage, à marcher sur la tête de tous ses compagnons pour durer un quart de seconde de plus.
On a l'impression qu'à cette espèce d'attachement à la vie, une espèce de vie qu'elle sent en elle, quand sa mère meurt, par exemple, elle dit, je ne sais plus exactement ce qu'elle dit, mais elle dit quelque chose du genre, c'est tellement bon de vivre et tout, parce que il y a différentes manières de se suicider. Je veux dire qu'il y a des gens qui peuvent pas faire le pas de se tirer une balle ou de se jeter par une fenêtre ou et puis qui se suicident d'une autre façon, plus lente, parce que la vie c'est quelque chose de très fort, même si on la vit très très mal, même si on est à l'agonie, on s'accroche encore. On sait pas pourquoi on vit, comment on va vivre, mais elle est là et on la retient. Après la première lecture, la première impression que j'ai eue, c'est une victime. Et je ne veux pas être cette victime, donc je ne l'aime pas, cette femme. Elle est pitoyable. Au-delà de l'écriture, bien sûr, ça c'est un autre problème qui est absolument extraordinaire, je trouve. Mais c'est l'impression que j'avais, donc, c'est que c'était une victime et qu'elle ne m'était pas sympathique. Elle n'a que de la haine, effectivement. Et il y a de très rares moments de tendresse. C'est quand elle s'apitoie sur elle-même, mais moi, je pense que c'est quelque chose que toute femme qui a besoin d'amour, tout être qui a besoin d'amour, et peut-être plus spécialement toute femme, quelque chose dont toute femme peut parler, c'est-à-dire sous la forme de se parler à soi-même. À un moment, je me souviens, elle dit ma chérie, ma petite chérie, quelque chose comme ça. On dirait des mots que pourrait lui dire un homme, mais en fait c'est elle qui se les dit, parce que il n'y a personne pour les lui dire. Sinon, elle se regarde sans pitié dans le miroir. Quand même, j'ai trouvé ça assez bouleversant, parce que peut-être que tout le monde n'a pas cette possibilité de se remettre en question. Pourquoi il y a des gens qui arrivent à se remettre en question et pourquoi il y en a d'autres qui n'arrivent pas?
Je me demande, c'est la question que je me pose, je me demande si vraiment un personnage comme Julia Martin, l'héroïne de Quai des Grands Augustins, est un personnage tellement anachronique. C'est vrai qu'il y a une forme de dérision, c'est-à-dire que, bon, c'est une caricature, si on veut. Bon, la relation d'argent avec les hommes, c'est fou, c'est dément. Quand on pense dans Quai des Grands Augustins que Julia Martin, bon, cette femme a une relation, peut-être elle a rencontré cet homme 3 fois, et elle a une certaine lucidité, parce qu'elle elle sait bien que c'est une relation assez, assez sinistre, qui n'a même pas marché en tant que relation, et elle estime tout à fait normal que cet homme l'entretienne, et qu'il ait une dette envers elle. Mais je crois que c'est une forme de caricature, c'est de l'image du pouvoir détenu par les hommes et intériorisé par les femmes.
À l'époque, les femmes se, enfin, vers les années 20, les femmes se donnaient. Et c'était un don qui avait une valeur d'échange. Bon, non, je crois qu'on ne dit plus, nous ne disons plus de nous-mêmes, je suppose, je me suis donnée à lui. Enfin, moi, je l'avais pensé, par exemple. Et je crois que ça implique, enfin, je vois des parentes à moi, des tantes, ou des, qui vivent, qui, dans leur tête, qui continuent à vivre ça, qui considèrent que ça a valeur d'argent et que si on a un amant, il faut exiger de l'argent. Alors c'est effectivement intéressant de voir ça. Moi, ce que je lui reproche surtout, par rapport dans ce livre-là, qui est magnifiquement écrit, bon, ça c'est vrai, j'ai senti, c'est ce qui m'avait plu dans La prisonnière des Sargasses, une dimension de, je ne sais pas, qui me donnait à rêver, de l'imaginaire. Et dans une deuxième lecture de La prisonnière des Sargasses, je me suis rendu compte que tous ces thèmes, disons, misérabilistes, était aussi dans La prisonnière des Sargasses. Ce que je n'avais perçu à la première lecture, je m'étais laissée charmer par des paysages, par je ne sais pas quoi, toute une atmosphère qui est très belle. Et je lui en veux, au fond, de ne pas avoir exploité en elle cette possibilité de donner à rêver qu'elle avait, et alors qu'elle a plutôt choisi de nous infliger ces espèces de tristes errances dans Paris. Il y a quand même des dimensions qui me manquent complètement chez Jean Rhys.
Ah oui, moi aussi.
Oui, mais si tu veux, au-delà du problème de la femme, si tu veux, on a l'impression d'une angoisse existentielle qui dépasse le problème de la femme elle-même.
Ah oui, moi j'approuve tout à fait ce que vient de dire Marie-Céline Lafontaine, parce que je ne crois pas qu'il y ait seulement le malheur des femmes victimes. Ça, bon, c'est vrai, c'est la femme marchandise, hein, comme dirait un critique anglais, le seul mot qui convient c'est la femme allumeuse. Hein, au fond, la seule possibilité de rapport, c'est le rapport de séduction, mais au premier degré, hein, et sans relation réelle possible à aucun niveau, ni d'amitié, ni même amoureuse. Bon, la tendresse reste toujours quelque chose de théorique et d'abstrait, donc toujours absente, réellement. Bon. Je ne crois pas, parce qu'en fait, il y a malgré tout cette lucidité ironique dans... Les personnages de Jean Rhys sont doubles, ils sont toujours doubles. Et je vous fais remarquer que dans chaque roman, il y a toujours deux hommes. Il y a évidemment l'homme, le pouvoir, évidemment, indifférent, cruel, tyrannique, qui devrait payer les chèques et qui cesse de les payer à un certain moment. Et il y a aussi l'autre homme qu'elle rencontre toujours. Avec qui, évidemment, c'est un échec, parce qu'elle a la lucidité, elle reconnaît lucidement qu'elle est prédestinée à cet échec. Je ne suis pas tout à fait certaine que sa propre limite et sa propre carence lui ait échappé. Et l'échec est là, il est dans la trame du récit, il n'est pas hors de la trame du récit, c'est pourquoi je pense que dans le roman, cette réalité est présente.
Je le dis tout à l'heure, ça renvoie à quelque chose de bien autre que la condition féminine ou les problèmes des femmes. Je crois que ça renvoie à plusieurs moments. On a l'impression qu'elle décolle carrément de la réalité, quoi, qu'elle atteint presque à un niveau de perte de contact avec le réel. Cette scène dans l'escalier, la nuit, où elle est avec l'anglais, là, où elle dit qui m'a touchée, elle ne sait plus qui l'a touchée. Enfin, je crois que c'est tout un univers intérieur très, très, très névrotique et qu'elle arrive en peu de pages, finalement, à décrire complètement, je trouve. Alors, évidemment, il n'y a pas de place pour le rêve et pour l'humour, parce que, quelque part, elle rêve au sens où elle n'est pas du tout dans la réalité. Mais c'est un cauchemar, quoi.
Il y a 5 jours que je suis là. J'ai choisi un endroit pour manger à midi, un endroit pour manger le soir, un endroit pour boire après le dîner. J'ai arrangé ma petite existence. Cela, c'était hier soir. Couché, je reste éveillée à y penser, et à penser à l'argent que m'a prêté Sidonie, et à la façon dont elle m'a dit « Je ne peux pas supporter de te voir comme ça », en fermant à demi les yeux et en souriant de ce sourire qui veut dire « Elle commence à avoir l'air vieille, elle boit ». En rentrant, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit « Je ne peux pas supporter de te voir avec un air comme ça. » « Comme quoi, ai-je dit ? Je crois que tu as besoin de te changer les idées. Pourquoi ne retournerais-tu pas un peu à Paris ? Tu pourrais t'acheter de nouvelles robes. Tu en as bien besoin. Je te prêterai l'argent nécessaire, » disait-elle. « J'y vais la semaine prochaine. Et si tu veux, je pourrais te trouver une chambre, etc. » Cela fait des mois que je n'avais pas vu cette femme. Et puis elle a fondu sur moi. Alors me voilà. Quand on vous a rendu très froide et très lucide, on a aussi fait de vous quelqu'un de très passif. Pourquoi se tracasser? Pourquoi se tracasser? Je ne peux pas dormir. Rouler d'un côté à l'autre. Était-ce en 1923 ou en 1924 que nous habitions à deux pas d'ici, rue Victor Cousin, et qu'Eno m'a acheté cette toque de cosaque et le manteau en faux astrakan? C'est alors que j'ai commencé à me faire appeler Sacha. J'ai pensé que mon sort changerait peut-être si je changeais de nom. Cela m'a-t-il porté bonheur, je me demande, de me faire appeler Sacha? Était-ce en 1926 ou en 1927? J'allume la lumière. La bouteille d'évian sur la table de nuit, le tube de Gardénal, les deux livres sur le rebord, la pendulette qui tic-tac, les rideaux rouges. Il appelait toujours ce bar le Port et le Lys, parce que son propriétaire s'appelait Porcalis. Il est situé dans une de ces rues derrière la gare Montparnasse, décorée dans le style Old English Tavern. Je ne vois pas ce qui m'empêcherait d'y retourner. Je n'y ai jamais fait d'esclandre. Je ne m'y suis jamais effondrée ou mise à pleurer. Pour autant que je le sache, j'y ai une réputation impeccable.
I mean, some of your first books were written in Paris, weren't they?
Yes,
that's when you actually got down.
Yes, all my books were, as a matter of fact.
And always very sad little stories.
Yes, yes.
Oh, j'adorais Paris. Bien sûr, les histoires sont tristes, mais c'est parce que la vie est triste pour certaines personnes. Moi, je fais partie de cette dernière catégorie. Je ne dis pas exactement que la vie ait toujours été contre moi. Pour moi, c'est un effet de destin. Je ne sais pas vraiment si on peut compter sur la volonté. La volonté joue jusqu'à un certain point. Mais souvent, c'est presque impossible d'imaginer qu'on pourrait être capable de faire autrement qu'on a fait. À Paris, dans les années 20, comme il faisait chaud. J'étais si heureuse. J'ai rencontré des gens qui étaient gentils. Et j'ai été heureux pendant un certain temps avec mon mari. Et puis j'ai commencé à aimer Paris. Et j'ai commencé à penser à Paris comme à quelque chose à part. Tout ce qui n'allait pas pour moi retombait sur le dos de Londres. Tandis que Paris n'avait pas à voir avec les gens.
C'est nettement pire que je ne le pensais. Voilà ce qu'on m'a dit à mon retour à Londres, ce fameux hiver il y a 5 ans. Pourquoi ne t'es-tu pas noyé ? A dit le vieux scélérat. Dans la Seine ? Dans la Seine, rien que ça. C'est exactement ce qu'il a dit. Une réaction très normale. Mais quelle façon de s'exprimer ? Tout ce qu'il y a de mélo. Nous te considérons comme morte. Pourquoi n'as-tu pas fait un trou dans l'eau ? Pourquoi ne t'es-tu pas noyé dans la Seine ? Ces phrases coulent allègrement des lèvres de gens respectables. «
Jean Rhys.
And anyhow, writing is very, very tiring thing.
De toute façon, écrire, c'est terriblement éprouvant. À tout prendre, il faut mieux casser des pierres que d'écrire.
When I was excited about life,
quand j'étais très excitée par la vie, je ne me sentais pas d'inclination à écrire. Et pas davantage lorsque j'étais heureuse. Je n'ai jamais écrit sur ce qu'était que de vivre le bonheur. On ne peut pas décrire le bonheur. Du moins, c'est très difficile. Je n'ai jamais été heureuse pendant de longues périodes. Pensez-vous que ça arrive à qui que ce soit?
I think you can be peaceful for quite a long time.
Je pense qu'on peut se sentir en paix pendant un certain temps.
Don't you think?
Mais être heureuse, c'est autre chose.
But to be happy is different. And that's a bit rare.
C'est plus rare. Et ça n'arrive que par hasard.
But then altogether, I think if I had to choose, I'd rather be happy than write. If I had my life all over again and could choose.
Dans l'ensemble, si c'était possible de choisir, je préférerais, si j'avais encore ma vie devant moi, être heureuse que d'écrire. Weintal.
J'aime Jean Rhys beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, je crois que, bon, je ne vais pas vous parler du contenu de ses livres, parce que je crois que tout le monde plus ou moins le connaît. Mais je pourrais parler, enfin, de son art absolument fabuleux, de son écriture. Je peux dire que pour moi, ça a été une surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai commencé à lire les premières pages. Un petit peu comme ça, détaché, son langage me paraissait un peu simpliste. Et au fur et à mesure de ma lecture, j'ai été prise dans cette espèce de, je trouve même pas le mot, enfin bon, d'art accompli qui est l'écriture de Jean Rhys. Et je dois dire que c'est même à la fin du livre que je m'en suis rendu compte, parce qu'elle m'a entraînée dans son histoire, dans son monde intérieur d'une façon bouleversante. Et puis bien sûr, le fait que ce soit un écrivain féminin, ça compte beaucoup pour moi, parce que je crois que avec des moyens très douloureux, mais elle renvoie à l'image de la femme qu'on continue à être malgré tout ce qui se passe, malgré notre lutte, etc.
Donc ce n'est pas dépassé, on ne peut pas considérer que c'est une histoire trop spécifique qui nous prend de trop loin.
Non, moi je crois pas, je crois que c'est une histoire universelle, parce que cette détresse, même si les conditions, même si les moyens de la vivre ont changé, cette détresse, elle est toujours là. Et elle sera, je crois, toujours là. En définitive, on se retrouve toujours par un biais ou par un autre dans cette histoire.
En ressortant sur la place de l'Odéon, je me sens heureuse grâce à mes nouveaux cheveux et à mon chapeau neuf et au bon repas et au vin et à la fine et au café et à l'odeur de la nuit à Paris. Ce soir, je ne vais pas aller dans un de ces sales petits bistrots. Non. Ce soir, j'irai quelque part où il y a de la musique, où je serai avec beaucoup de gens, quelque part où l'on danse. Mais où? Toute seule, où aller? Je vais d'abord boire encore un verre, puis j'y réfléchirai. Pas au dôme. Il faut éviter ce fichu dôme. Et bien entendu, c'est au dôme que je vais. La terrasse est bondée. Mais il n'y a pas grand monde à l'intérieur. Pourquoi diable suis-je entrée ici? C'est un endroit qui m'a toujours déplu. sauf tout à fait au début, quand le velours n'était pas si resplendissant et que tout le monde crachait par terre. On y était plutôt bien alors. Je pèse ce que j'ai bu et je sors. J'attends pour traverser la rue. Quelqu'un me dit « Pardon, puis-je vous parler ? J'ai dans l'idée que vous savez l'anglais. » Je ne réponds pas. Nous traversons côte à côte. Il dit « S'il vous plaît, permettez-moi de vous parler. J'en ai si envie. » Il parle anglais avec un très léger accent que je n'arrive pas à définir. Je le regarde et je le reconnais. Il était assis à une table opposée à la mienne, au dôme. « Je vous en prie, si nous allions bavarder dans un café. »« Bien sûr, dis-je, pourquoi pas. »« Bon, alors où allons-nous » dit-il d'une voix hésitante. « Vous comprenez, je ne connais pas bien Paris. Je n'y suis arrivée qu'hier soir. »« Ah, » dis-je. Pendant que nous marchons, je le regarde de biais. Et je reste perplexe. Il n'essaie pas de me jauger, comme ils font d'habitude. Il cherche, lui, à se faire valoir. Il est très beau. Je l'avais remarqué au dôme. Mais cette nervosité, ce rire légèrement affecté. Bien sûr, j'y suis. Oh mon Dieu, ai-je l'air de ça ? Ai-je vraiment l'air d'une riche rombière qui fait un tour à Montparnasse dans l'espoir de... Après tout le mal que je me suis donné, est-ce de ça que j'ai l'air ? Je suppose que oui. Vais-je lui dire d'aller se faire fiche ? Mais après tout, me dis-je, voilà peut-être l'occasion de me payer un peu de retour. On leur parle, on fait semblant de sympathiser, et puis au moment précis où ils ne s'y attendent pas, on dit « allez vous faire fiche ». Nous passons devant la closerie des Lilas. Il dit « Voilà un café qui a l'air bien. Si nous y entrions ?»« Très bien, mais il est très plein. Asseyons-nous à la terrasse. » La terrasse est froide et sombre. Et à part nous, il n'y a pas une âme. « Qu'est-ce que vous buvez ?»« Commencez par mettre la main sur le garçon. Il ne va pas venir ici, dehors. »« Je vais le chercher. » Il entre dans le café et revient avec le garçon et deux cognacs. Il dit « Avez-vous jamais éprouvé un pareil sentiment ? Que vous n'en pouviez plus ? Qu'il vous fallait parler à quelqu'un ? Qu'il vous fallait tout raconter à quelqu'un sans quoi vous alliez mourir ?» Je peux l'imaginer. Il ne me regarde pas. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Il regarde droit devant lui, se préparant à quelque effort. Il va prononcer sa tirade. J'ai fait cela si souvent moi-même que cela m'amuse de voir quelqu'un d'autre dans le même cas. Mais pourquoi est-ce à moi que vous voulez parler ? Il va dire « Parce que vous avez l'air si bonne » ou « Parce que vous êtes si belle et que vous avez l'air si bonne » ou subtilement « Parce que vous avez l'air de quelqu'un qui comprendra » Il dit « Parce que je crois que vous ne me trahirez pas. » J'avais l'intention de le laisser parler, le laisser tout me raconter, et puis d'être anglaise d'une manière si anéantissante que peut-être je parviendrais à le blesser un peu, pour me venger de toutes les fois où j'avais été blessée. « Parce que je crois que vous ne me trahirez pas. Parce que je crois que vous ne me trahirez pas. » À présent, ça ne va pas être si commode.
Viviane Forester, l'écrivain, a bien voulu nous parler de Jean Rhys, qu'elle a eu l'occasion de rencontrer.
Oui, pour moi, Jean Rhys, qui était aussi émouvante à rencontrer, en effet, que à lire, parce qu'on sentait sa fragilité, mais aussi sa disponibilité. Pour moi, c'est un très grand écrivain. Et comme tous les grands écrivains, c'est quelqu'un qui a su aller au pire. Et je pense qu'elle y a été, et ça se sentait dans sa présence, c'est-à-dire une femme qui était absolument sans armes pour se défendre, mais qui avait toutes les armes pour observer, pour constater. C'est-à-dire une femme extrêmement subversive, parce que le constat et la lucidité, c'est la pire des choses.
Justement, donc ce n'est pas une femme totalement prisonnière d'un aspect de la personnalité qu'elle veut nous montrer, c'est-à-dire la femme frivole, la femme refusant de s'assumer.
C'est un écrivain qui raconte pas la femme frivole, à mon avis, ni justement, c'est un écrivain, je pense, qui raconte les hommes comme les femmes, qui connaît très bien les hommes, qui connaît très bien la souffrance. C'est une femme et elle a payé, comme tous les grands écrivains. Moi, je trouve qu'elle ressemblait, vous me disiez que vous étiez de cet avis, elle me fait penser à Dostoïevski, par exemple. Quelqu'un qui sait souffrir et les écrivains, je veux pas dire qu'il faut souffrir, mais je veux dire, elle avait la science, une science terrible, sous cette fausse simplicité qui est tellement difficile à acquérir. Elle avait la science terrible et qu'elle a payé, comme l'a payé Artaud, comme l'a payé Dostoïevski, comme l'ont payé tant Wolfe, enfin tant de gens, hommes et femmes. Elle avait le sens de la misère sexuelle, mais aussi le sens de la jouissance et du manque.
Oui, je crois.
Et d'autres jouissances que sexuelles, d'ailleurs. Justement, le réseau libidinal chez elle ne se réduit pas au sexuel, mais elle avait le sens et elle va jusqu'au bout de ça.
Oui, et c'est frappant d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on sent dans tous ces livres cette espèce d'attente. Le personnage, oui, il est à la fois comme ça, en train de guetter, il attend, oui, que quelque chose se passe, et quelque part, il y a une lucidité, il est prêt à aller, oui, au pire pour cette chose qu'il attend et qu'il espère.
C'est-à-dire qu'à la fois, elle est une femme, puisqu'il est question de femme, mais elle est un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui a tous les sexes. Et qui répond de tous. Et cette attente, moi, je l'ai sentie, d'ailleurs, quand je l'ai rencontrée, parce qu'en effet, elle arrivait très séductrice et très douce et très fragile et très paumée, toujours, comme les héroïnes de ses livres. Et en même temps, quand une communication commençait, elle la bloquait toujours. Je me rappelle, je lui avais offert en partant un collier, et comme par hasard, quelque chose est tombé au moment où elle m'ouvrait les bras pour m'embrasser, et on ne l'a jamais fait, enfin, je veux dire. Mais c'est une femme qui vivait... Enfin, c'était s'assumer complètement et avait ce que vous, votre description de Jean Rhys, c'est vraiment la description gaieté, c'est être un écrivain. Et c'est une femme qui est très surprenante parce que ses livres ont l'air, en effet, pourraient presque être des romans de gare, des mélos, et ce sont des livres extrêmement savants, bouleversants, qui vont très très loin. Je crois que c'est une femme qui écrivait d'une façon très organique. Et moi, je ne crois pas que l'intellect et l'organique soient dissociés. Et c'est-à-dire, elle écrivait avec... C'était une vraie intellectuelle.
Il y a de quoi rassurer les intellectuels, alors.
Comment ?
Il ne lui manque pas la dimension de la culture,
pas
alors.
Pas du tout, mais il n'est pas question de ça. D'ailleurs, la culture et écrire sont deux choses qui peuvent être différentes. Il ne lui manque absolument pas la dimension intellectuelle.
Non, mais je veux dire, effectivement, oui, on est tenté, quand on voit cette espèce de disons, le milieu dans, oui, lequel se placent ces actions, qui est, bon, un milieu de cover girl, ou de gens, disons, sans, qui n'ont pas l'air d'avoir des préoccupations, disons, ni intellectuels, ni culturels. Ce sont des gens qui ont tourné le dos à toute espèce de préoccupation parce qu'en fait, ils n'ont qu'un souci, c'est leur vécu.
Mais Barthes a très bien compris ça. Dans les fragments de discours amoureux, où il sait. Mais alors, Jean Rhys l'a écrit et l'a payé et l'a vécu bien avant. Enfin, il l'a transcrit. C'est-à-dire que ce qui est l'essentiel, c'est la bêtise. Ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est la bêtise. On ne peut pas maîtriser l'autre qui fuit. On ne peut pas maîtriser les choses qui paraissent les plus sottes. On peut être aussi intellectuel.
En ce sens, c'est vrai que les romans ne s'arrêtent pas à une histoire de femme. Ce n'est pas vrai, jamais.
Absolument pas.
Jamais. On peut dire que la situation qu'elle a placée les hommes en situation totalement différente, tout en ayant toujours, effectivement, une espèce de référence, disons, bête. Mais a priori, c'est tellement systématique que très rapidement, on comprend le jeu. Que d'entrée de jeu, il faut passer par-dessus.
Quand je dis bête, je veux dire écrire comme on écrit Bouvard et Pécuchet, ou comme l'Italien Gada. Je veux dire quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses et au fond des choses. Il y a un Italien qui écrit Connaissance de la douleur. Au fond de la douleur, il y a la bêtise. Et c'est là que vont tous les, disons, les poètes. Elle en est un.
En tout cas, est-ce qu'elle n'aurait pas compris quelque chose dans le nouveau type de relation qui est en train de s'établir entre les hommes et les femmes, où plus rien n'est défini, aucune structure n'a résisté vraiment et tout le monde est désemparé?
Elle a compris ce que c'était que de vivre sur cette planète, c'est être désemparée, et c'est vivre, et ce que les gens vivent actuellement, comme de son temps, c'est une très grande misère sexuelle. Je ne crois pas que ça ait beaucoup changé, malgré tous les efforts. Et elle en rend compte. C'est un témoin, Jean Rhys, c'est un témoin saignant.
Donc il n'y a pas que des femmes qui soient paumées.
Non, mais elle sait très bien dire comme les hommes le sont. C'est-à-dire qu'elle montre que les femmes sont victimes de personnes minables, mais elles le sont souvent elles-mêmes. Et le pouvoir des hommes est minable.
Demain, j'irai aux Galeries Lafayette choisir une robe. Puis au printemps, acheter des gants, du parfum, du rouge à lèvres. Des choses qui coûtent 6,25 francs et 19,50 francs. Acheter n'importe quoi de bon marché. La sensation d'acheter, voilà ce qui compte. Je regarderai des bracelets constellés de pierres artificielles, rouges, vertes et bleues, des colliers de fausses perles, des étuis à cigarettes, des tortues ornées de joyaux, et quand j'aurai vidé 2 ou 3 verres, je ne saurai pas si c'est hier, aujourd'hui ou demain. Maintenant, de l'argent, car la nuit approche. De l'argent pour mes cheveux, de l'argent pour mes dents, de l'argent pour des souliers qui ne me déformeront pas les pieds. Ce n'est pas si facile actuellement de se promener avec des souliers bon marché, à talons très hauts. De l'argent pour des vêtements de bonne qualité. De l'argent. De l'argent. La nuit approche. C'est toujours le moment où il n'y en a pas. Juste quand vous en avez besoin, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'argent. Pas d'argent. C'est déprimant. Est-il vrai que je suis moche? Mon Dieu, non. Je parie que c'est une femme qui a dit ça. Non, c'est un homme qui l'a dit. Suis-je moche? Non. Non, tu es jeune. Tu es belle. Quelquefois tout va très bien. Quelquefois ça marche. Souvent ça marche. Et certains jours, et certaines nuits, manger, dormir, marcher, retourner à l'hôtel de l'arrivée, l'hôtel du départ, l'hôtel de l'avenir, l'hôtel de la Martinique et l'univers. Retourner à l'hôtel qui n'a pas de nom dans la rue, qui n'a pas de nom. On appuie sur le bouton et la porte s'ouvre. Voici l'hôtel sans nom, dans la rue sans nom. Et les clients n'ont ni nom ni visage. On monte l'escalier, toujours la même chambre. La chambre dit, tout à fait comme autrefois. Oui? Non? Oui. Une chambre, une bonne chambre, une chambre magnifique, une chambre magnifique avec bain, swing high, swing low, swing to and fro. Il s'est passé ceci. Et ensuite cela. Et puis sont venus les jours où j'ai été seule.
C'était Jean Rhys par Marlène Ospis et Bruno Sourcy avec Jacques Tournier, Diana Attil, Francis Widman, Nicole-Élise Bernem, Marie-Céline Lafontaine, Annie Mignard, Lia Weintal et Viviane Forester et Jacqueline Fier. Texte extrait de La prisonnière des Sargasses et de Bonjour minuit.
Cette émission a été diffusée la première fois le 4 février 1980 sur France Culture.